divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, la libre pensée.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes.
Auditrices, auditeurs, bonjour. Au micro, David Gozlan, secrétaire général de la Libre Pensée. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Pascal Pavageau, secrétaire général de la CGT Force Ouvrière. Bonjour Pascal.
Bonjour David.
Depuis toujours, les liens amicaux et fraternels lient nos deux organisations. Chacun a notamment en mémoire le fait que Marc Blondel fut président de la Libre Pensée après avoir été secrétaire général de Force Ouvrière pendant 15 ans. Alors, Pascal Pavageau, vous venez d'être élu secrétaire général à la suite du congrès de Lille. Et lors de ce congrès, la résolution générale revenait notamment sur la question de la laïcité et elle revenait en ces termes. Le congrès rappelle son attachement à une conception républicaine de la laïcité fondée sur l'égalité des droits. Dans une période de crise marquée par l'ultralibéralisme, l'aggravation des inégalités, le délitement du collectif, la perte de confiance dans l'avenir et le repli sur soi, la laïcité est dévoyée. Instrumentalisée à des fins partisanes, elle donne lieu à des débats stériles et souvent surmédiatisés. Pourtant, là n'est pas l'essentiel. La laïcité telle qu'elle doit s'imposer est la stricte séparation des Églises et de l'État. Elle permet de garantir la liberté de conscience, liberté de croire ou de ne pas croire, le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public et l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances et les convictions. Le Congrès se refuse à voir la laïcité brandie comme un étendard de circonstances ou affublée de divers qualificatifs. La laïcité, comme la démocratie, ne se décline pas, elle est ou elle n'est pas. Elle n'est pas plurielle, mais universelle, et doit être portée à l'échelle de l'humanité. Elle n'est pas une simple cause à défendre, mais une loi appliquée par l'État, celle du 9 décembre 1905. Longue citation, auditrices et auditeurs, mais Pascal Pavageau, pensez-vous que la laïcité est aujourd'hui menacée et qu'elle est instrumentalisée?
Oui, comme vous venez de le rappeler, d'abord c'est une première pour nous d'avoir mis la laïcité au sein d'une résolution générale, c'est-à-dire de notre feuille de route, de notre mandat confédéral, et c'était important, nous l'avons jugé collectivement important de faire ce point et de donner nos positions, et effectivement parce que nous sommes dans un contexte où nous jugeons que la laïcité est aujourd'hui menacée, instrumentalisée. La laïcité au sens où nous l'entendons ici, à savoir la séparation stricte des Églises et de l'État, est menacée en ce sens où c'est une notion qui donne lieu à des interprétations plurielles, mais qui de fait aujourd'hui est menacée de cette instrumentalisation, pardon. Cette stricte séparation, elle fait obstacle à toute immixtion d'une religion dans les affaires publiques, comme à toute ingérence de l'État visant à favoriser telle ou telle religion. Lorsqu'on entend dernièrement le président de la République, venir s'exprimer devant la conférence des évêques de France, il y a de quoi s'interroger. Parce qu'il est normalement le garant de la liberté de conscience et de culte. La République et l'État, ou l'État républicain, n'a pas à reconnaître une religion, ni à entretenir avec l'une ou l'autre une relation privilégiée, par exemple en lui accordant des privilèges quelconques, en venant le flatter, ou en venant le financer, ou en lui donnant des avantages quels qu'ils soient, symboliques ou juridiques. Que ce soit d'ailleurs éventuellement en évoquant notre histoire ou la culture. D'ailleurs, notre histoire, le président de la République a l'habitude en ce moment de la réécrire. Donc instrumentaliser la laïcité, et parfois notamment, il faut bien le dire en ce moment dans notre société, contre l'islam, c'est compromettre la liberté de conscience et de religion qui doit être reconnue à chacun. C'est nourrir le communautarisme et c'est prendre le risque de diviser et de briser l'unité de la République.
Alors, on voit bien là, vos interrogations, je dirais, rejoignent nos craintes par rapport notamment à ce que le président de la République a dit. Mais vous, comme syndicat, comme force ouvrière, vous travaillez surtout dans le domaine social. Et on le voit, l'un des domaines où on voit justement la laïcité apparaître, notamment avec la loi El Khomri dans les entreprises. Il est notamment inséré dans cette loi-là, l'article L1321 2-1, je suis désolé, mais il faut donner ces citations, qui est rédigé ainsi. Il dit « Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés, si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché. Fin de citation. Pensez-vous, Pascal Pavageau, qu'il n'y a pas là un danger de voir la liberté de conscience du salarié disparaître ?
Si, tout à fait. C'est ce que nous avons écrit, c'est ce que nous disons dans cette résolution. On assiste finalement à une logique, à une évolution, à un glissement d'une logique de laïcité de séparation, hein, qui est le principe de la séparation entre l'État et les cultes tels qu'exercés par la loi, et une laïcité de neutralité. Et finalement, ce texte qui nous a été imposé, alors que devrait prévaloir la liberté d'expression, y compris religieuse, tend à faire que la laïcité sous couvert de neutralité s'invite dans les entreprises et finalement l'ensemble du secteur privé. Donc évidemment, chacun en son fort intérieur, il reste libre de croire ou de pas croire. Et ce qui semble menacé ici, c'est surtout la liberté de manifester ses convictions. La loi de 1905, vous l'avez rappelé, c'est pas une loi anti-religieuse, elle sépare pas l'homme de la religion, mais elle sépare l'État de la religion. Et pour nous, AFO, l'entreprise, elle n'a pas vocation à être un lieu d'expression autre que sociale, syndicale et économique, mais elle ne peut pas être non plus, elle ne peut pas nier les libertés individuelles qu'ont tous les travailleurs, tous les salariés, en leur qualité de citoyens. Donc on considère qu'il n'est pas du rôle de l'entreprise d'organiser ou de contrôler les principes de la République et de la citoyenneté, ce qui aurait pour conséquence, sinon, de mettre à mal l'égalité de traitement d'une entreprise par rapport à l'autre. Et donc laisser la place à des réponses locales ou d'entreprises revient à casser l'égalité et la réglementation nationale. Et c'est bien dans le cadre légal que doivent s'inscrire la mise en œuvre du principe de laïcité et donc d'une éventuelle régulation de la pratique religieuse si à un moment donné de cela devait se poser au-delà du simple cercle public, même si nous pensons qu'au-delà du simple cercle public, c'est la liberté de chacun de penser et de l'exprimer.
C'est bon. Alors c'est vrai qu'il y a en fait un enjeu qui est nouveau dans ces entreprises, comme vous venez de le rappeler, où la laïcité est là aussi encore une fois, je dirais, instrumentalisée ou l'instrument de la désorganisation dans le monde du travail. Mais ces questions de laïcité touchent particulièrement, et vous l'avez rappelé, l'école. Enfin, vous n'avez pas parlé de l'école, mais justement le secteur public. Et dans l'école, il y a depuis 1959 une loi qui est la loi Debré. Et dans cette loi-là, il est fait état, et nous avons fait état, le fait que 10 milliards d'euros par an partent justement sur les écoles...
10 milliards d'euros publics.
Oui, publics, oui. Du budget de l'éducation nationale qui partent dans les caisses de ces écoles privées qui, je le rappelle, sont à 97% catholiques. C'est quand même quelque chose d'important à rattraper. Et dans la résolution toujours générale de votre congrès, qui, je crois, a réuni quand même beaucoup de militants ou beaucoup de délégués, il est écrit « FO revendique l'abrogation de toutes les lois anti-laïques, dont la loi Debré ». Je rappelle aux auditrices et aux auditeurs le fait qu'après la loi Debré, il y a eu plusieurs dizaines de lois anti-laïques. Pouvez-vous, Pascal Pavageau, revenir justement sur cette petite phrase « FO revendique l'abrogation de toutes les lois anti-laïques, dont la loi Debré ». Pouvez-vous nous en dire plus et en quoi est-ce important pour Force ouvrière de reprendre quelque part ce mot d'ordre qui est le mot d'ordre du serment de Vincennes ?
Oui, vous rappelez beaucoup d'éléments de notre résolution et je vous en remercie. C'est important pour nous parce qu'encore une fois, c'est la première fois qu'on écrit, publiquement sur la laïcité. Et d'autre part, cette résolution, c'est important, je ne l'ai pas dit en entrée, elle a été votée par le Congrès, donc l'ensemble des syndicats avant ouvrière, à plus de 99%. Donc quelque part, l'immense majorité des syndicats force ouvrière se retrouvent dans cette résolution qui ne traite pas évidemment que de la question de la laïcité, mais notamment de celle-ci pour une première fois. Et reprendre pour nous ce mot d'ordre laïque, c'est évidemment important en raison de notre attachement au niveau de force ouvrière à toutes les valeurs républicaines. Sans laïcité, pour nous, les valeurs d'égalité, de solidarité, de fraternité ne peuvent pas trouver leur plein effet. Donc, nous pouvons mettre en parallèle, finalement, la loi de 1905 avec la charte d'Amiens, qui est le texte fondateur du syndicalisme libre et indépendant auquel nous référons et dont nous nous revendiquons. Et le syndicalisme se doit de rassembler les travailleurs, quelles que soient leurs opinions philosophiques ou religieuses. Et c'est le même esprit de fond émancipateur de l'homme qui s'exprime à travers la séparation de la sphère publique politique et de la sphère privée syndicale. Au-delà de la défense de la laïcité, il s'agit de veiller compliquée pour nous à sa mise en œuvre, y compris, donc, vous venez de le rappeler, dans l'utilisation des deniers publics. Et la loi Debray, par exemple, contrevient clairement au principe, selon nous, selon lequel fonds publics à la seule école publique, fonds privés à l'école privée. De la même manière, il faut rester vigilant pour que, par un savant mélange des genres, la culture, demain, ou déjà un peu aujourd'hui, ne serve pas de prétexte pour recueillir des fonds détournés ensuite vers le culte. Donc oui, nous, cette séparation-là, nous considérons que cette laïcité de séparation, elle doit se traduire partout, y compris, et peut-être même surtout, sur l'argent public.
Alors, cette question est essentielle sur, d'ailleurs pour tous les citoyens, pour tous les élèves aujourd'hui qui se retrouvent, peut-être pour certains d'entre eux, au mois de juin, à passer le bac. L'école, est-ce que vous pensez que cette école-là, on peut, qu'il y a une république quelque part qui pourrait sauver l'école? Est-ce que cette école-là est en danger par justement ce détournement?
D'abord, vous avez rappelé, mais l'argent public qui est envoyé dans les cultes, c'est de l'argent public en moins pour l'école de la République. Donc déjà, ça, c'est un premier constat, et dans une période d'austérité et de rigueur. Donc oui, le fait que au sein même de l'argent qui doit revenir à l'école de la République, on ait des symboles aussi forts que on leur enlève des moyens pour en donner à, en plus, une église, essentiellement, il faut bien le dire, en très grande majorité, une église, donc s'y crée une double inégalité, ce qui rompt le principe de séparation et en plus devient du favoritisme envers un des cultes, quel que soit son histoire et celui de la France, pose un vrai problème. C'est qu'ensuite, comment vous voulez qu'au sein de l'école de la République, qui du coup ne donne pas l'exemple, dont les représentants ne donnent pas l'exemple, on puisse avoir une éducation correcte de ce qu'est la laïcité alors que l'école elle-même, les fonds publics ne la respectent pas. Donc ça pose effectivement de multiples problèmes.
Alors, vous revenez sur la laïcité. Justement, si vous aviez à définir la laïcité, qu'est-ce que vous diriez? Comment vous arriveriez, vous, à Force Ouvrière, à définir cette laïcité-là?
Je crois que, vous savez, on était hier en délégation à l'Organisation internationale du travail et aux Nations unies, où tous les syndicats du monde entier, de 187 pays, sont notamment représentés. Et parmi les choses que l'ensemble des syndicats, nos camarades de tous les pays nous donnent comme exemple, nous, une république, nous avec notre histoire, c'est bien sûr la question des droits collectifs, les 93% de travailleurs couverts par une convention collective, mais aussi ce principe de séparation. Et de laïcité. Pour nous, la laïcité, c'est un gage de démocratie et un pilier. C'est un pilier de notre modèle républicain. Cette laïcité, elle est au cœur des combats des droits universels et indivisibles. Et donc, elle permet de garantir cette liberté de conscience, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire, et le libre exercice des cultes dans le respect de l'ordre public, ainsi que l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient les croyances et les convictions. Donc la laïcité, c'est le respect dû aux individus, qu'ils soient croyants ou non, mais pas aux croyances ni aux religions. C'est autre chose, et elle participe, je le répète, à cette unité de la République. En ce sens, c'est un vecteur de paix sociale, et en ce moment, franchement, on en a bien besoin.
Alors, une dernière question, peut-être pour conclure l'émission. Tout à l'heure, vous êtes revenu sur la question de la charte d'Amiens. Est-ce que vous pensez que cette charte d'Amiens, elle est toujours d'actualité? Parce que vous savez, c'est un petit peu la question du vieux monde. On dit que les vieilles choses, il faut peut-être les balayer parce qu'elles sont vieilles. Donc, est-ce que cette charte d'Amiens est toujours d'actualité? Est-ce qu'elle a une modernité? Est-ce que d'ailleurs, même le syndicalisme fait pas partie du vieux monde?
Écoutez, franchement, si être moderne, c'est déprotéger les gens et casser les cadres collectifs, si être moderne, c'est instrumentaliser des fondements essentiel de la République comme la laïcité, écoutez, oui, il y a de quoi s'interroger et dans ce cas-là, être fier de rester de l'ancien monde. Cet ancien monde, dont la charte d'Amiens fait partie, dont le syndicalisme libre et indépendant fait partie, il est à l'origine de nos conventions collectives. Il est à l'origine de plein de principes, y compris de la construction de la laïcité, de l'égalité de droit, et bien sûr de la fraternité, et donc de ce fait, de la liberté et de la solidarité. Donc cet ancien monde, il est à l'origine des statuts, il est à l'origine du fait, je l'ai dit tout à l'heure, que 93% de nos concitoyens qui travaillent sont couverts par une convention collective ou par un statut. statut. Il est à l'origine du fait que lorsqu'il arrive, des drames financiers ou des catastrophes financières comme on a vécu ces dernières années, la France et ses citoyens sont moins impactés que d'autres parce qu'ils sont protégés par l'ensemble de ces principes et l'ensemble de ces cadres collectifs. Donc non, nous ne pensons pas que dans le nouveau monde que certains voudraient créer, cette logique de déprotection soit gage de modernité. Bien au contraire, moi je viens d'un vieux syndicat, d'un vieux pays, d'un vieux continent, et certes d'un vieux monde, mais ce monde, il est toujours d'actualité et nous sommes extrêmement fiers du patrimoine social et syndical qui est le nôtre.
Très bien, écoutez, merci beaucoup Pascal Pavageau. Je vous souhaite une bonne continuité dans vos fonctions, dans votre mandat.
Merci.
À se revoir éventuellement dans d'autres circonstances. C'était au micro David Gozlan de La Libre Pensée. Je vous nous retrouverai bien évidemment chaque mois le deuxième dimanche du mois. Mais éventuellement, si vous voulez contacter La Libre Pensée, vous pouvez soit aller sur son site www.fnlp.fr. Si vous voulez voir ces actualités au niveau international, nous avons aussi un certain nombre de liens sur ce site qui vous permettent d'y accéder. Vous pouvez toujours nous retrouver au niveau de nos publications. D'une part, La Raison, qui est le mensuel de La Libre Pensée, et L'Idée Libre, qui est un trimestriel de La Libre Pensée, plus thématique, mais qui revient sur un certain nombre de dossiers extrêmement importants, dont nous venons de parler, par exemple, sur la question de la laïcité et des entreprises. Je vous souhaite un excellent dimanche. Je remercie à la réalisation Dany Journaud, à la technique Philippe Mercher, et au mois prochain. Au revoir.
Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours de cette guerre infâme. C'est à Craon sur le plateau qu'on doit laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. Car si vous voulez faire la guerre, payez-la de votre peau.